Séquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
La séduction de la haine. Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence Protestante. Quelque chose a changé ces dernières années dans la forme du débat public. En 2007, avant l'élection présidentielle, le réalisateur François Ruffin, pas encore député, signait une lettre adressée au futur président Macron contenant 12 fois l'expression « vous êtes haï ». La tribune s'intitulait d'ailleurs « Lettre ouverte à un futur président déjà haï ». Si aujourd'hui Ruffin renie ce martèlement, il maintient sa position de fond. Mais ce qui nous intéresse dans cette lettre, c'est à quel point elle fait symptôme de la place immense prise aujourd'hui par la haine dans les sociétés occidentales. Comme si les digues du refoulement avaient brutalement cédé. Comme si des pans entiers de la population pensaient qu'il est possible désormais de s'affranchir des règles du débat démocratique. C'est le discours de la haine sur Internet, entretenu par des trolls et des médias soi-disant alternatifs. C'est la haine de l'Occident des djihadistes, la haine de la démocratie des populistes. C'est la haine des juifs qui se poursuit comme si rien ne s'était passé au XXe siècle. C'est la haine des immigrés et des étrangers. La haine des élus, des élites et d'ennemis réifiés qui sourd dans le complotisme. C'est encore la haine de l'autre, le narcissisme exacerbé des petites différences. La haine a colonisé le langage, elle a éteint le débat démocratique et polarisé toutes les positions. Elle est devenue une politique en soi et une justification au passage à l'acte violent. Elle a séduit une partie de la société qui entre maintenant en politique négativement, dans un désir révolutionnaire confus qui veut impérieusement faire table rase de tout. Comment la haine a-t-elle irrigué les nouvelles idéologies? Qu'en faire politiquement? N'est-elle pas incompatible avec un fonctionnement démocratique apaisé? Car on peut penser que la haine défait le lien social, qu'elle coupe le dialogue entre les individus et qu'elle réduit l'autre au silence par le meurtre parfois. Mon invitée Hélène Leuillet examine précisément la place de la haine dans le populisme contemporain et dans le djihadisme. Bonjour Hélène Leuillet.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Hélène Leuillet, vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Sorbonne et psychanalyste. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la psychanalyse, la police et le terrorisme. Je vous reçois aujourd'hui pour votre livre « Tu haïras ton prochain comme toi-même, les tentations radicales de la jeunesse ». C'est sorti chez Albin Michel en 2017. Hélène Leuillet, d'où vient le pouvoir de séduction de la haine, en particulier chez les plus jeunes? D'où vient cette attirance?
Alors, il y a quelque chose, je pense, qu'il faut remettre dans un contexte plus large, hein, parce que, comme vous le disiez en introduction, le refoulement sur la haine semble avoir disparu. Mais je dirais que le refoulement, il a disparu sur plein de choses dans nos sociétés. Hein, et que, du coup, sur certaines choses, c'était très bien. Hein, je veux dire, quand on relit Freud, il se plaignait du refoulement sur la pulsion, cette fois la pulsion érotique. Mais tout se passe comme si, en levant le refoulement, en l'assouplissant, eh bien, on avait aussi libéré l'autre pulsion, la haine. Et je dois dire qu'on est presque à jeu renversé, c'est-à-dire que pendant des siècles, la haine, bien sûr, elle existait, elle est dans le psychisme humain, et puis elle faisait des ravages. Enfin, je veux dire, on n'a pas inventé la guerre dans nos années, il y a eu des massacres dans l'histoire humaine, mais il fallait toujours déguiser ça par de l'amour. Comme si on ne pouvait pas aimer... Comme si, pardon, on ne pouvait pas haïr sans déguiser ça par de l'amour. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, ce qui autorisait évidemment à haïr celui dans lequel je ne reconnaissais pas un prochain. Mais, voilà, on cherchait des justifications. La haine était considérée comme une passion triste, hein, dans les traités des passions classiques. Et on l'avouait péniblement, quand même. Hein. Ça coûtait, quand même, d'avouer la haine. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Hein, et même, que c'est d'où mon lapsus tout à l'heure, un sentiment qu'on ne peut pas aimer sans haïr. Enfin, voilà, on dit, ah bah oui, bah, y a toujours un peu de haine dans l'amour. Oh bah, ma foi, on trouve ça normal. Et la haine, surtout dans une société de performance comme la nôtre, hein, eh bien, elle peut être tout à fait positivée. Tu sais, on est dans la société du positif, c'est normal. Hein, quand il n'y a plus de refoulement, on est dans le positif. Donc, il faut tout positiver. Eh bien, on positive la haine aussi.
Donc on la transforme en une valeur acceptable.
Non seulement acceptable, mais elle apparaît comme un ressort. Hein. Vous savez, si vous arrivez pour passer des concours ou des entretiens d'embauche, tellement gentil et tellement confiant, on va dire vous êtes bisounours. Hein, vous reviendrez quand vous aurez un petit peu requinqué à votre agressivité. Et puis, il est vrai qu'il en faut de l'agressivité dans la vie. Mais du coup, ça nous a amené à positiver la haine. Et elle apparaît, effectivement, comme une qualité qui permet de ne pas être dupe, l'intelligence sarcastique. Hein, voyez comment, aujourd'hui, le sarcasme remplace le rire, bien souvent. Hein.
Sauf ça que fait partie de la haine. Le sarcasme est cruel.
Le sarcasme, c'est de la haine. Hein. C'est le rire de la haine, le sarcasme. Et donc voilà, tout ça, ça paraît intelligent, lucide, etc. Tandis que celui qui est gentil, il est un peu béné, quoi. Voilà ce que notre contexte actuel, qui est assez grave, parce que la haine est destructrice, comme vous l'avez dit.
Dans les deux objets qui vous intéressent, c'est-à-dire à la fois la haine du côté des djihadistes et la haine du côté des populismes, sur le populisme, Hélène Leuillet, vous écrivez « Basculer dans le populisme, c'est consentir sans peur à la mort de la démocratie ». Alors expliquez-nous ce mécanisme qui appelle la mort de la démocratie.
Oui, c'est très étrange. Hein, quand j'écris cette phrase, c'est aussi pour qu'on se réveille. Enfin, il n'y a pas si longtemps, je veux dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même pas longtemps, hein, il y a encore des gens vivants. Eh bien, quand la démocratie a disparu, quand on la retrouve, mais on l'aime, on se dit plus jamais, on ne nous y reprendra à se laisser séduire par un leader populiste qui nous explique ceci, cela. Et puis, on se rend compte que très vite, quelques années après, le danger est à nouveau là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense qu'effectivement, le leader populiste, hein, ou les leaders populistes, hein, servent à éteindre la peur. Hein. De toute façon, les phénomènes comme ça, un peu, qui passent par les masses, ont cet effet d'éteindre la peur. Hein. Je veux dire, on est comme renforcé par l'idéologie. Et la haine, l'idéologie haineuse, eh bien, elle permet d'être cette croyance erronée qu'on est fort, hein, et que non, ça ira, je veux dire, on pourra se passer de ces procédures un peu lourdes de la démocratie, on saura, nous on est le peuple, et voilà enfin quelqu'un qui parle pour nous, et donc on n'a plus peur, hein, on est comme rassuré par celui qui, en fait, va nous mettre à mort. Hein. Mais Platon, déjà, dans La République, avait déjà analysé ce phénomène, qu'il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où celui qui est le plus dangereux pour ce peuple apparaît comme celui qui va le rassurer. Hein. Et voilà pourquoi on bascule sans peur. C'est-à-dire que cette peur qu'on a de la mort de la démocratie, il y a des moments où les leaders populistes savent la faire oublier. Et c'est là qu'évidemment, le peuple s'endort et que c'est grave.
Vous montrez dans votre ouvrage qu'il y a l'idée qui s'est répandue ces dernières années qu'au fond, la démocratie a spolié le peuple. Oui. On l'entend dans les cortèges aujourd'hui, avec une idée complotiste qu'au fond, les élites ont confisqué le pouvoir et qu'il faut rendre le pouvoir au peuple. Le populisme fonctionne aussi sur ce mécanisme-là.
Le discours de la spoliation, il est essentiel dans le populisme. Parce que le leader populiste ne peut pas fonctionner sans cet appel au peuple. Je veux dire, évidemment, la grande tromperie populiste, c'est de faire croire que le leader populiste va donner le pouvoir au peuple. Hein, même que le jour de son investiture, Donald Trump a dit aux Américains rassemblés là, c'est votre jour. Non, c'est pas le jour du peuple américain, c'était son jour à lui. La tromperie populiste, c'est de faire croire que c'est le peuple qui va prendre le pouvoir. Et le peuple, on y reviendra peut-être, dans ses trois sens. Hein, le sens juridique, hein, qui correspond aux procédures de la démocratie, hein, qui est le régime quand même de la souveraineté du peuple, le peuple au sens populaire, hein, au sens social, et puis le peuple au sens ethnique, d'où la dimension raciste, antisémite, vous l'avez rappelé dans l'introduction, de certains populismes, enfin pas de tous, mais la plupart, il y a cette dimension ethnique qui suppose l'exclusion d'un ou d'autres, de plusieurs, hein, groupes qui n'apparaissent pas au leader populiste comme définissant ce que lui appelle le peuple. Hein. C'est ça la tromperie, hein, de faire croire qu'il y a peuple dans ces trois sens. Et là, ça peut fonctionner. Alors maintenant, il faut quand même dire que les élites démocratiques, au sens des élites gouvernantes de la démocratie, ont leur part de responsabilité. Parce que bien sûr, quand on est un représentant élu de la démocratie, on a beaucoup de responsabilités de faire fonctionner la démocratie. C'est-à-dire qu'avec la démocratie, on a un régime qui à la fois est procédural, puisque les procédures de la démocratie sont la garantie de l'existence de la démocratie, et puis un régime dans lequel, effectivement, le peuple doit se reconnaître un minimum dans les représentants, dans les partis, y compris les partis d'opposition qui doivent le représenter. Et quand il manque un des deux termes, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire qu'effectivement, si les élites politiques qui gouvernent, se coupent, comme on dit, complètement du peuple, elles n'apparaissent plus comme représentatives. Mais si le peuple prétend pouvoir se passer des procédures, effectivement, on tombe dans un régime de tyrannie, dans un régime de mort, puisque forcément le peuple, il s'est défini aussi là au sens ethnique, donc de toute façon, il va mettre à mort des gens, et voilà, on n'a plus la démocratie. Donc la démocratie, elle est sur ce fil-là. Et c'est pour ça que la colère, quand elle n'est pas entendue, elle est très menaçante pour une démocratie. Oui. Et si elle se défend seulement avec le discours de l'ordre, elle montre aussi qu'elle s'est affaiblie.
Ce qui est un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui.
Hélas.
Alors, Hélène Leuillet, vous expliquez que la haine est à la fois quelque chose de pulsionnel, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une pulsion haineuse, et en même temps quelque chose d'idéologique. Comment on conjugue le pulsionnel et l'idéologique? L'un s'appuie sur l'autre, l'un a besoin de l'autre?
Oui, tout à fait, parce que l'idéologie, c'est pas comme une loi scientifique, par exemple. Le succès d'une idéologie, elle vient pas de la raison. C'est-à-dire que c'est même le contraire de la science. Bachelard a bien montré que la loi scientifique, elle va contre les affects. Donc, quand on adhère aujourd'hui, à des principes de physique quantique, c'est qu'on a compris, quoi, c'est la raison. Tandis que l'idéologie, elle fonctionne avec la pulsion. C'est-à-dire que la victoire des idéologies, elle suppose un investissement pulsionnel. Elle suppose de rencontrer l'affect qui va la porter. Donc, une idéologie de haine, elle fonctionne aussi avec l'affect. Alors maintenant, c'est là qu'il y a une sorte de carrefour et de croisement, parce que l'idéologie, elle est aussi du langage. Forcément, elle parle, tandis que la haine, vous l'avez rappelé aussi en introduction, elle détruit le langage. Et à un moment, elle se transforme en éructation, en répétition, comme vous disiez pour la lettre de Ruffin. On ne sait plus rien dire que d'autre que je te hais, de crier, etc. La haine, elle épuise le langage, elle le sature, et en même temps. Donc, puisque nous sommes des êtres de langage, il faut bien nous pousser à la haine. Donc, il y a de l'idéologie, il y a du langage. Mais, certains peuvent se prendre à l'idéologie, et puis là, du coup, se mettent à parler, à réfléchir, à penser, et puis là, dans une certaine mesure, c'est gagné. Là, ça correspond aussi tout à fait à notre actualité. Je veux dire, si on se prend au débat, en fait, il y a quand même quelque chose de gagné, parce que même si on revendique, et puis surtout s'il y a un vrai débat, quoi, je veux dire, s'il y a quelque chose, de la souffrance populaire qui peut être entendue, là, ça désamorce la haine. Et même la reconnaissance, elle peut être à la hauteur aussi de ce qui a pu être entendu dans les débats. Mais en revanche, si c'est la haine qui gagne, alors l'idéologie, elle disparaît aussi. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'il n'y a même plus le recours du langage. Il n'y a plus que la force brute de renverser des institutions. Et puis là, effectivement, on entre dans des logiques de rapport de force et de violence.
Et donc la violence, elle trouve sa source plutôt dans la haine que dans une idéologie rationalisatrice qui serait peut-être au commencement Hélène Leuillet, mais qui, au final, est écrasée. Comment on expliquerait le passage à l'acte violent, finalement ?
En tout cas, l'idéologie elle-même, elle se radicalise en haine, je dois dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu un jeu d'aller-retour entre les deux. C'est-à-dire que, nous ne sommes rien comme êtres humains sans le langage. Donc, on ne peut pas être poussé à l'acte autrement que par le langage. Et même nos pulsions ne sont pas des instincts, par exemple. Il n'y a pas d'animalité dans la pulsion. La pulsion, elle est elle-même prise dans le langage, même si elle a quelque chose de sauvage, de débordant, qui doit être contenu. C'est tout l'enjeu de l'éducation des petits-enfants que de les aider à contenir la pulsion. Parfois en les contenant avec des gestes, bien sûr, mais quand même, on sait bien que c'est pas suffisant, quoi. C'est avec du langage, avec des histoires, avec des chansons qu'on contient la pulsion. Et l'idéologie, elle peut pousser à la haine, mais il y a un moment quand le parti pris de la haine est pris, l'idéologie est appauvrie. Là, si vous voulez prendre l'autre exemple qui paraît très différent, mais qui finalement obéit à des logiques semblables du djihadisme, on voit très bien comment la religion musulmane a été réduite, appauvrie par ce que les djihadistes eux-mêmes disent être un autre islam. Ils disent qu'ils sélectionnent les versets du Coran qui parlent de la fin des temps, et les autres ne les intéressent pas. Vous voyez, la haine, elle vient appauvrir tout ce qui est de l'ordre du langage. Donc, il y a de l'idéologie pour pousser à la haine, mais la haine, en contre-coup, elle vient appauvrir l'idéologie. Ce ne sont pas les problèmes des idéologies populistes, qu'elles semblent répondre à l'appel du peuple, mais elles appauvrissent complètement la notion de peuple. Hein, c'est vraiment le miroir grimaçant de la démocratie. C'est-à-dire le démos est appauvri par le leader populiste.
Alors l'idéologie est appauvrie, Hélène Le Yeh, et c'est ça qui la rend finalement plus accessible, parce que vous dites par exemple l'islam révolutionnaire a remplacé le marxisme, donc on va aller vers un discours très très simple de vengeance, de rivalité avec l'Occident, ça se joue comme ça ?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que il y a un appauvrissement. Alors vous évoquiez Internet tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un accès aujourd'hui, semble-t-il, à du savoir qui facilite beaucoup la réduction des idéologies, parce que oui, effectivement. Alors, il y a eu des franges violentes se réclamant du marxisme, mais c'était encore des terrorismes d'assassinat politique. Je pense par exemple en France à Action Directe. Mais c'est vrai que grosso modo, pour être marxiste, il fallait un minimum travailler, quoi, faire un peu d'économie, un peu de sciences politiques. Enfin, il fallait quand même un peu de philosophie.
Il fallait lire
quand même. Bon, il fallait travailler un peu, lire, être au courant de l'actualité, etc. Pour être un docteur de la foi musulmane, c'est pareil, je dirais les oulémas, ce sont des lettrés dans le monde musulman. Tandis que sur Internet, on a des sortes de résumés, de digests comme ça, qui permettent, semble-t-il, une assimilation rapide, mais qui appauvrissent complètement, qui transforment les grandes pensées en slogans, et qui permettent un ralliement comme ça beaucoup plus aisé aussi.
Ouais. Vous dites, Hélène Le Yeh, dans votre ouvrage, que pour que quelqu'un passe à l'acte violent, on doit induire sa psychose. Alors racontez-nous, pour nous qui sommes profanes, comment ça marche, ce système-là ?
Alors d'abord, par transition à ce que je viens de dire, c'est que l'appauvrissement de l'idéologie en slogan, eh bien, elle vient, en fait, ce qui reste du coup de la pensée, ce n'est plus qu'un commandement. En fait, quand on réduit complètement un texte, qu'on en écarte les nuances, qu'on ne se pose plus la question de l'interprétation, ce qui reste, c'est un effet de commandement. Un ordre. Hein, et c'est en ça que, effectivement, il y a toujours quelque chose qui reste du texte, ne serait-ce que le côté impérieux.
Hein, ouais, la norme.
La norme, là, et puis l'ordre. C'est-à-dire, il va falloir, là, ce que le sujet s'en remette entièrement à ce que le texte commande. Et puis, d'autre part, j'ai écrit ça pour dire. Alors, donc, j'ai écrit ça d'abord pour expliquer comment, en l'absence de commandement extérieur explicite, comme celui d'une armée, par exemple, qui existe dans une armée, des gens comme ça pouvaient passer à l'acte meurtrier. Hein, parce que, voilà, c'est quand même pas si facile de tuer. Hein, voilà, à la fois, on peut dire que tout le monde peut le faire dans certaines circonstances, mais que ces circonstances, elles ne sont pas si aisément réunies, et que la plupart du temps dans l'histoire humaine, eh bien, il faut que un pouvoir politique donne l'ordre à une armée de tuer, et puis, si les soldats n'y vont pas, menace de représailles, etc. Là, bon, voilà un moyen, le commandement. Et donc, quand, dans un mouvement comme le terrorisme, mais comme on a aussi les populismes sont aussi des régimes criminels. Hein. Quand il y a passage à l'acte, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se supplée de ce commandement. Hein. Dieu parle pas tout seul quand même. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas des révélations directes que celles qui s'exercent sur les djihadistes, ni pour le populisme, sur les leaders ou ceux qui les suivent. Mais c'est quelque chose qui vient à la place de. Hein. Et ça, je l'ai rapproché du commandement hallucinatoire dans la psychose. Hein. On sait qu'un psychotique, il tue, d'où la clause irresponsabilité, par une hallucination, par en lui une voix qui lui dit « Voilà, ça, il faut tuer, là, il faut tuer. » Hein, et là, je trouve que la clause d'irresponsabilité, elle est justifiée, parce que, véritablement, le sujet n'est plus là, à ce moment-là. Il n'est plus que l'exécutant d'un ordre. Hein. Alors, évidemment, je ne veux pas dire que les djihadistes sont psychotiques. Je ne veux pas dire que les leaders populistes sont tous psychotiques. Il y en a eu. Hein. Très certainement, il y en a souvent. Enfin, je veux dire que c'est un poste facile à occuper pour des, voilà, dans ce type de pathologie. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Et tous les djihadistes dont on a des fiches, pour l'instant, il y en a très peu hein, qui sont des psychotiques, parce que c'est quand même compliqué d'aller après se former. Mais il y a quelque chose qui est une sorte de psychose induite. Parce que pour arriver quand même à se mettre au service d'une instance qui vous demande de tuer, eh bien, il faut avoir supprimé en soi toute subjectivité. Parce que la subjectivité, elle est éprouvée par chacun d'entre nous comme un grand pouvoir de division qui sème le trouble. C'est ça, être un sujet. C'est-à-dire, voilà, tout à l'heure, je vais sortir de l'émission, je vais dire, j'ai dit ça, mais en fait, j'ai pas été clair, j'aurais peut-être pu dire ça, j'aurais peut-être dû répondre ça à tel moment, ou après, j'ai choisi ceci, mais est-ce que j'aurais pas dû choisir cela? Voilà la subjectivité. On est tout le temps avec notre petite boussole intérieure qui bouge tout le temps en train de se demander si on a pris la bonne direction. Quand on s'est engagé dans un mouvement de haine, la question ne se pose plus. Voilà. On est aux ordres, hein. C'est ça que réalise la haine, elle transforme les textes en commandements, on est aux ordres, et donc on n'est plus divisé. Hein. Et c'est pour ça que la religion, elle a quand même une certaine importance dans le djihadisme, et puis le mot peuple, une importance dans le populisme, parce que ça réalise comme ça, cette espèce de commandement qui fait que les sujets ne se posent plus la question de ce qu'ils sont, de ce qu'ils doivent faire, bref, de tout ce qui occupe une vie humaine.
On va écouter Hélène Lehuy, un morceau du rappeur This Is La Peste qui date de 2012 et qui s'intitule justement J'ai la haine.
J'ai les pieds au sang, je fais l'équilibriste sur le fil du rasoir. Les deux doigts dans la prise, mais le son je les ai apprises. J'ai bien fait mes devoirs, dans ma tête c'est la crise. Tu ferais bien de me croire, mon haine de merde me rend schizophrène. Dans mon crâne c'est la guerre, il faut qu'ils comprennent. J'ai grandi trop près, des haines trop gratuites. Des réflexions racistes, des conclusions hâtives. Regarde mes yeux quand j'étais petit sur les photographies. Ça se voit déjà que j'avais compris, j'ai grandi trop vite. Je suis un putain de métis, l'idéal pour certains. Pour une partie d'autres, je représente la fin. La race humaine, j'ai pas demandé à naître. C'est simple et direct, allez tous vous faire mettre. J'ai la rage de mes Césaires et de Franz Fanon. La solution, tout niquer, je ne dis pas non. Parfois je suis Martin, parfois je suis Malcolm. Un jour je suis Gandhi, le lendemain Newton. J'ai l'amour comme Marley, la haine comme Jill Scott. Je suis en paix sur Michael, j'ai le blues sur Simon. Torturé comme Jimmy, je chale comme Brine. Je suis un bâtard de métis, je serai toujours incompris. J'ai la haine depuis tout petit. Et vu l'époque que l'on vit, heureusement que j'ai pris. Je prends le bout d'une France en hypertension. Remercions le net pour son aide, pour une haine en expansion. Si j'avais 20 piges, j'aurais fait la même chanson. Je pète des plombs, putain, je pète des plombs. La France dans une haine certaine s'embourbe. Je le jure sur la tête d'Éric Zemmour. Certains sur des forums lâchent des messages d'amour qui feraient passer Hitler pour un bisounours. Cruel comme les gosses dans la cour d'école. La haine, personne en a le monopole. Et montrer sa différence devient le protocole. On y ajoute les actes pour que les propos collent. Et les clichés ont changé, maintenant ils s'autocollent. Grâce à Charlie Hebdo et aux grandes écoles. Et Benji Castaldi, la bouche sous propos folle. Articule mal ses propos de con à une people au propos de col. En démon, elle est homophobe.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, la séduction de la haine. Nous sommes en compagnie d'Hélène Lehuy. Un mot peut-être sur This Is La Peste, le rap, la haine?
C'est extrêmement intéressant. Vous savez, d'abord, c'est intéressant parce que les jeunes écoutent beaucoup de rap. Et à toute catégorie sociale et intellectuelle confondue, ils écoutent beaucoup de rap, ils se reconnaissent. Et je dois dire que le rap, c'est peut-être un phénomène de culture très important aujourd'hui, parce que quand il n'y a pas de refoulement de la haine, il faut bien en faire quelque chose de nos pulsions. Et le langage est encore le meilleur moyen, comme on le disait tout à l'heure. D'ailleurs, il s'appelle « This is », hein, Dizzy.
Disease. Ah, Dizzy. Ah, moi je le voyais en disease, la maladie, mais Dizzy. Okay.
Ah bah il y a aussi, enfin voilà, on peut aussi, d'accord. Voilà, j'ai dit Dizzy. Enfin il y a quelque chose du langage qui est évoqué. Et d'ailleurs dans une autre de ses chansons qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle Mon amour, où il dit, vous ne me, enfin où il chante aussi la haine. Hein, il dit, vous ne me trouverez pas du côté de ceux qui détruisent, vous ne me retrouverez pas du côté des terroristes. C'est-à-dire que il y a dans ses chansons de rap effectivement une façon de dire la haine. Qui peut apparaître comme une symbolisation de la haine. Je pense aussi au film de Kassovitz, La haine. C'est à mon avis un peu le même phénomène. Alors bien entendu, attention, quoi. Ils sont sur le fil aussi, parce qu'on en voit quand même pas mal des rappeurs qui sont aussi pris dans des bagarres. Récemment, un accusé de viol. Bon, faut être prudent parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Enfin, il a été relâché. Mais enfin, bon, ils sont un peu sur le fil, hein, quand même. Ils peuvent aussi inciter à la haine. Pour certains d'entre eux. Il y a eu une chanson notamment sur la police qui était vraiment dénoncée par la police comme une incitation à la haine. Mais en même temps, je pense que la plupart du temps, ils essayent de symboliser la haine et de dire la critique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec une alternative hors désordre, quoi. Parce que là, on est perdu. On est à nouveau dans la mort de la démocratie. Il faut que la critique du social puisse se dire. Il faut que ceux qui souffrent aussi puissent se faire entendre. Ceux qui se sentent discriminés, réprouvés, il faut qu'ils puissent se faire entendre avec des mots. Dans la critique, il y a aussi de la haine, mais une haine qui est tenue, qui est conjuguée avec de l'amour, avec du langage. Et là, je pense que dans l'hypothèse haute, le rap contribue à cela. Hein. Et vous voyez, il y a aussi un rythme qui fait qu'on est porté, donc il y a aussi de la joie dans ces chansons. Quoi, je veux dire. Donc, voilà, c'est, j'espère, plutôt du côté du travail de culture et de symbolisation de la haine.
Alors restons dans l'espérance. Votre ouvrage contient aussi des éléments de réflexion sur, au fond, les façons de continuer le travail de la culture et de la civilisation au sens de Freud, au sens de Norbert Elias. Alors, Hélène Neuillet, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On symbolise dans la chanson? On essaie de sublimer? On essaie d'exprimer ce qu'on a sur le cœur? C'est ça les solutions pratiques?
Absolument. Je veux dire, tout ce qui est du côté du langage, et tout ce qui est du côté du désir aussi, parce que la pulsion, c'est pas le désir. Hein. Vous savez, la pulsion, nos pulsions brutes, elles sont, ben, on sait très bien, pour ce qu'on nous en éprouvons, c'est un but, quelque chose qui nous force à aller d'un côté. Et c'est la même chose, au contraire du désir. Le mouvement du désir, c'est d'être ramené à soi. Hein. Et le désir, lui, il est complètement dans le langage, suppose le langage. Et donc, tout ce qui va dans ce sens-là, eh bien, il va dans le sens du travail de culture qui sert effectivement à éponger l'image de Freud, c'était éponger le Zuiderzee, hein, voilà, étancher le Zuiderzee, c'est-à-dire que nos pulsions, elles sont effectivement comme une sorte de marée liquide et qui sont épongées par des mots. Hein. Il ne s'agit pas de les brider seulement, ni de les refouler, parce que le refoulement, ce n'est pas non plus une très bonne solution. Le retour du refoulé, il nous fait payer le refoulement. Hein. Donc, bon, de toute façon, il n'y a plus. Refoulement, il n'y a plus. Mais la symbolisation, elle est vraiment un travail beaucoup plus profond sur les pulsions, qui en garde la vitalité, hein, qui est la vitalité pulsionnelle, elle est absolument nécessaire, y compris la vitalité de la haine, parce que la haine, c'est pas la jouissance de la haine. Là, ce à quoi on assiste dans le populisme et le djihadisme, c'est une vraie jouissance de la haine. Et donc, dire la haine, comme fait This Is, ou le rap, ou tout ce qui est de l'ordre du dialogue, comme ce que nous avons en ce moment, ou tout ce qui va dans le sens d'une parole vraiment adressée, ça, c'est un travail de culture. Et là, du coup, moi, je suis plutôt sévère sur aussi la communication, par exemple, parce que je trouve que l'ère de la communication, elle tue le langage. Hein. Communiquer,
c'est
pas la même chose que parler. Exactement. Je pense qu'il y a effectivement un... d'où la dénonciation aussi de la politique comme seule communication. Moi, je crois qu'il y a de la communication en politique, c'est nécessaire. Enfin, il y en a toujours. Mais c'est vrai que si ça n'apparaît que comme de la communication, c'est dénoncé parce que la communication, ça appauvrit le langage. On ne sait plus de quoi ça parle. C'est plus adressé, quoi. Il n'y a de vraies paroles qu'à condition de pouvoir accrocher quelque chose chez l'autre, c'est-à-dire de s'adresser vraiment à lui, de le faire exister comme autre, et de reconnaître aussi l'altérité qu'on porte en soi, c'est-à-dire que, bon, bah, on peut se tromper, on s'est mal fait comprendre, on s'est mal exprimé, etc. Tout ça fait partie du travail de culture, de reconnaître cette faillibilité humaine.
Et là, de reconnaître le
travail toujours pour lui. l'humanisme, vous savez.
J'entends bien, et de reconnaître aussi l'incomplétude de la démocratie. Cette émission s'achève, je vous remercie beaucoup, on serait encore restés ensemble longtemps. Hélène Leuillet, je rappelle le titre de votre ouvrage, Tu haïras ton prochain comme toi-même. C'est sorti en 2017 chez Albin Michel, merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.